cette conférence, donc dans le cadre des conférences de la chaire LR Wilson sur le droit des technologies de l'information et du commerce électronique. Une innovation avant toute chose, aujourd'hui nous allons enregistrer la conférence et nous espérons pouvoir la rendre disponible sur le site web de la chaire, chairelrwilson.net, donc pour référence future. Cela dit, il ne faudrait pas qu'on s'abstienne de dire des choses à cause de ça. Si on voit qu'il y a des choses trop compromettantes, on trouvera bien une solution pour...
J'ai un droit de regard.
Oui, c'est ça, pour les censurer. D'ailleurs, nous avons demandé le consentement à notre conférencier qui a gentiment accepté. Donc,
Mais par courriel.
Donc, alors, on ne sait pas. Alors, sans plus tarder, je présente Nicolas Vermès, qui, pour plusieurs des personnes qui sont ici, n'a pas besoin de présentation, puisqu'il, en dépit de son jeune âge, c'est quelqu'un qui dispose d'une expérience tout à fait remarquable dans le domaine du droit des technologies de l'information. Il a soutenu brillamment un mémoire de maîtrise sur la responsabilité civile des intermédiaires ayant qui transmettent des virus informatiques via Internet, un mémoire qui a été qui constitue une des sources majeures de doctrine sur cette intéressante question. Il est présentement inscrit au doctorat à l'Université de Montréal, en co-tutelle avec l'Université de Poitiers. Il est également présentement avocat chez Legault, Joly et Tifot, donc une société d'avocats dans laquelle, il me disait, il exerce ses fonctions depuis maintenant 2 ans, aujourd'hui même. Il a été, pour ceux qui s'en souviennent aussi, une des chevilles ouvrières de la revue électronique Lex Electronica, qui célèbre cette année son 10e anniversaire. Donc, il a été de ceux qui ont présidé ou destiné au jour le jour de cette revue. Et aujourd'hui, il a accepté de nous entretenir de la jurisprudence récente en droit des technologies de l'information à partir du regard d'un praticien, c'est-à-dire à partir du regard qu'il est en mesure de porter dans le rôle qu'il est appelé à jouer comme praticien dans l'étude d'avocat où il travaille, mais aussi, j'en suis sûr, comme penseur en droit, parce que notre invité aujourd'hui allie à la fois le pragmatisme du praticien et la rigueur et la curiosité intellectuelle qui souvent est caractéristique de plusieurs grands intellectuels. Alors, c'est donc avec plaisir que je le remercie d'être avec nous. Je vais aller m'asseoir à l'avant pour ne rien manquer de son propos. Et comme à l'habitude, à l'issue de son exposé, pourra se mettre en place une période de questions, une période de dialogue avec notre invité. Entre-temps, ne vous gênez pas si la soif ou si un café vous fait votre bonheur. Vous pouvez vous servir à l'arrière. Il n'y aura pas de pause destinée à cet effet, mais les gens peuvent se servir à leur guise. Nicolas Vermès.
Merci. Est-ce que si je suis debout, ça va pour le son? Oh. Bon, ben, je vais rester assis ici. Chose très drôle, qu'on débute avec moi pour prendre le son. Au cégep, je faisais partie d'une troupe de théâtre. On était 12 comédiens. C'était une comédie musicale, Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat, pour ceux qui connaissent. Puis, donc, il y a 12 personnages, 12 frères. Il y avait 11 micros. Celui qui n'en avait pas étant moi, parce que la personne qui s'occupait de la pièce de théâtre s'est rendue compte que ma voix était trop atroce pour chanter. Donc, on commence les enregistrements avec ma voix. Je trouve ça un peu dangereux pour la chaire, mais bon. Donc, bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être venu en si grand nombre. Merci,
Monsieur Trudel, de m'avoir invité. Et merci pour cette présentation élogieuse. Jurisprudence récente en droit québécois. Bon, regarde un praticien. Je vais dire, regarde un praticien avec quand même 2 années d'expérience. Je ne vais pas me prétendre ce que je ne suis pas, c'est-à-dire un expert chevronné, Par contre, je suis quelqu'un qui fait qui lit énormément en technologie de l'information, puis comme l'a dit M. Trudel, qui le fait depuis plusieurs années déjà. Donc voilà. Pour ce qui est de ma présentation d'aujourd'hui, d'abord, je profite du fait que j'ai la tribune ici pour vous faire une un court retour, dans le fond, sur la présentation de Mme Proulx qui était il y a un mois. Comme c'est en ligne, je me sens un peu moins mal. Si Mme Proulx n'est pas d'accord avec moi, elle va pouvoir prendre connaissance de mes propos et m'en faire part et peut-être revenir l'an prochain pour en discuter. La conférence de Mme Proulx, pour ceux et celles qui n'y étaient pas, faisait part donc de la loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, du fait que c'était la phase 1 d'un projet en deux phases, que donc la phase 1 était terminée, que ça allait très bien, qu'on passait maintenant à la phase 2. Donc, d'où mon petit bonhomme sourire, selon Mme Proulx, tout allait très bien avec la loi. Pourtant, la loi, comme vous le savez, fort probablement, a été adoptée en 2001. Depuis 2001, combien de décisions cite la loi? On a une première décision qui est 2747-71-73 Québec Inc. contre Zurich, une décision qui a été rendue et pour laquelle la loi était essentielle, puisque l'objet, c'était de savoir si un fax, la réception d'un fax équivalait à avoir reçu un document. Donc, effectivement, on avait absolument besoin de la loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information pour savoir qu'un fax était un document qui valait, là, tout comme un tout autre écrit. Je pense que c'est Vincent Gautret qui a fait son mémoire de maîtrise sur le fait que les documents transmis par fax avaient une valeur juridique. Ensuite, une autre décision en 2004, dans la situation de BV, c'est une question d'un enfant dont on avait besoin du certificat de naissance. On n'avait pas le certificat, mais cependant, on avait l'état de naissance de la ville de Montréal. Donc, la Cour est venue dire, écoutez, c'est pas la même chose. La partie qui représentait l'enfant a essayé de prétendre, oui, mais en se fiant sur la loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, on peut dire que c'est une équivalence. Où le juge est venu dire, écoutez, vous êtes totalement dans un autre secteur. Là, on peut dire, si on prend le certificat, qu'on le digitalise, à ce moment-là, la copie électronique du certificat équivaut à la copie papier. Mais de dire qu'un autre document complètement a la même valeur en se retournant vers cette loi-là, c'est un non-sens. Depuis cette année, on a deux nouvelles décisions dont je vais vous parler plus tard, pas nécessaire de les noter. Ce qui fait finalement que en 5 ans, donc depuis 2001, on est rendu avec 4 décisions. Donc 4 décisions, est-ce que ça veut dire que tout va bien? Je ne suis pas certain. Maintenant, c'est pas nécessairement une question. Pas nécessaire de s'affoler. C'est quand même 3 décisions de plus que la loi sur les abeilles. Donc, quand même, il faut prendre ça pour acquis. Mais ce n'est pas fantastique. C'est 5 décisions de moins que la loi sur la chiropratie. Chiropratique. Donc, voilà. Maintenant, la question, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'en 5 ans, presque 5 ans, la loi n'a seulement eu 4 applications jurisprudentielles? Est-ce que c'est parce que les gens ne connaissent pas la loi? Est-ce que c'est parce que les gens ne l'utilisent pas? Ou est-ce que c'est parce que les gens ne la comprennent pas? Ma réponse serait en fait un peu des trois. Pour avoir pratiqué, je peux vous dire que la plupart des avocats qui connaissent la loi, qui, je ne suis pas certain, sont la majorité, ne comprennent pas son application et ne se donnent même pas la peine d'essayer de la comprendre. Je me suis fait dire à maintes reprises par des collègues de d'autres bureaux que la loi, dans le fond, c'est une loi qui concernait Internet. Donc, c'était pas important. Moi, je suis en litige. Donc, on est en litige. Je fais des dossiers beaucoup en droit de la construction, en droit des assurances. Internet, c'est pas important en droit de la construction, en droit des assurances. On n'en parle même pas. Quand pourtant, ça a toute son utilité dans tous les domaines. Puis, je vous donne un exemple concret. J'avais un dossier où je représentais un individu qui cautionnait une entreprise. L'entreprise a fait faillite. La banque essayait de saisir l'individu en question. J'avais une copie d'un courriel qui avait été envoyé par l'institution financière à mon client, lui disant qu'il était libéré après une certaine date. La date avait passé, donc techniquement, mon client devait être libéré, ce qui fait qu'il n'avait pas à payer les sommes. Le document que j'avais en main, comme je vous dis, c'est un courriel. En fait, c'est un courriel qui avait été transmis d'une personne à l'intérieur de la banque à son directeur, qui était en copie conforme à mon client. Le document avait deux lignes, une phrase, trois ou quatre coquilles, qui n'était pas signée, qui avait simplement le prénom de la dame qui envoyait le document. Notre client n'en avait plus copie. La copie que nous, on avait en notre possession, en fait, c'était un fax d'une photocopie où on ne voyait plus l'envoi. Avec ce document-là, on a eu un règlement. Document qui, si on retourne vers la loi concernant le cadre juridique d'étalogie de l'information, n'a pas une très grande valeur du fait que sa fiabilité laisse à désirer. Un autre dossier sur lequel j'ai travaillé, qui lui a été fort publicisé, donc je peux en parler, c'était l'affaire des biscuits Leclerc qui a passé à la télévision. On a pu voir l'arrière de ma tête à plusieurs reprises lorsque j'ouvrais la salle d'audience, la porte de la salle d'audience. Dans ce dossier-là, c'était une question de concours publicitaire en ligne où il y a eu un problème avec le site Internet. Puis, il y a plusieurs personnes qui croyaient, par erreur, avoir gagné le premier prix, c'est-à-dire une voiture. On s'est présenté à la cour, puis les gens qui montraient, regardez, j'ai la preuve que j'ai gagné, ce qu'ils nous montraient, c'était une page web. Puis lorsqu'on regardait en bas de la page web, l'adresse, bien, c'était desktop, Gilles Prou, peu importe. Donc, aucune façon de dire que l'image qu'ils ont a réellement été prise sur le site web. Puis, lorsqu'on conjugue ça avec le fait que la première journée d'audition, il y avait trois ou quatre demandeurs, la deuxième journée, il y en avait 22. Donc, 18 personnes qui sont apparues nulle part. Bon, on peut se demander, finalement, est-ce que c'est le beau-frère, le cousin, l'ami, etc., qui simplement a appelé, a dit, « Écoute, envoie-moi la page web par courriel. » Puis, je vais mettre ça sur mon disque dur, je l'imprime, j'arrive moi aussi avec ma preuve que je crois avoir gagné le premier prix. Donc, encore là, ben, je me suis présenté dans ce dossier-là. J'ai participé justement parce que j'avais les connaissances en nouvelle technologie pour dire, ben, écoutez, ces documents-là, côté de la preuve, c'est pas fort. Finalement, le dossier a été réglé pour des conditions dont je ne peux pas malheureusement pas parler, mais... ça reste que leur preuve était basée sur, finalement, les documents qui n'avaient pas vraiment de valeur juridique. Donc, voici un premier problème. Un deuxième problème, citation d'une décision, Technologie Labtronics Inc. C'est une décision de 1998 de la Cour d'appel. Je vous lis un passage qui me fait bien rire. Dans ce dossier-là, c'est une question de communication entre avocats, des avocats qui s'étaient transmis des versions différentes d'un projet d'entente, puis c'est à savoir quelle version était la plus récente, etc. Puis ce que l'avocat vient dire au juge de première instance, ce que le juge de première instance, pardon, vient dire, c'est moi, pour tout dire, il y a une chose qui m'a surpris, et là je m'adresse aux deux parties, il peut y avoir une explication, mais c'est tellement basic en informatique, vous faites fonction copie, vous gardez le premier document, puis le deuxième, vous faites la correction dedans. Si vous voulez les deux sont sauvegardés. La réponse de l'avocat, c'est « Quand je me déciderai à faire de l'informatique, votre seigneurie, vous me donnerez un cours. » Donc, autre problème, plusieurs avocats n'ont pas les compétences requises en informatique, même les compétences minimales, je dirais. Il y a plusieurs personnes, lorsque je les appelle, je leur dis « Écoutez, envoyez-moi ça par courriel. Ah, je ne peux pas, ma secrétaire est déjà partie. » Donc, deuxième problématique est celle-là. J'ai pris assez de temps dans mon discours d'ouverture, donc je vais tout de suite commencer avec la jurisprudence. Comme vous voyez, je me suis limité à 5 sujets. Vous remarquerez que je ne parle pas de droit criminel pour deux raisons. Un, parce qu'à peu près toutes les décisions, c'est sur la pornographie juvénile en ligne. Les décisions sont presque toutes identiques. C'est on ne peut plus déprimant pardon, de lire tout ça. Puis, dans le fond, le résultat est toujours le même, c'est-à-dire on applique les dispositions du code. La personne avait de la pornographie juvénile dans sa possession, donc est responsable. Donc, j'ai écarté ça. J'ai également écarté vie privée, puisqu'il y a eu, il y a 2 ou 3 semaines à peu près, là, un colloque qui se portait strictement sur cette question-là. Donc, je ne voulais pas répéter les propos qui étaient tenus. Donc, allons-y avec la première catégorie, c'est-à-dire les décisions relatives à la loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information. La première décision de janvier de cette année,
Pour ce qui est là, des dates, j'ai reculé d'un an, donc je retourne jusqu'à novembre de l'an dernier. Donc, celle-ci, entreprise Robert Mazeril contre Expertech. Les faits du litige sont plus ou moins importants. Ce qu'il faut retenir simplement, c'était une question d'interrogatoire après défense. Donc, l'une des parties voulait interroger l'autre. Les procureurs étaient situés dans deux villes différentes, ainsi que les parties. Donc, c'est très difficile de ramener tout le monde à la même place pour un coût minime. Donc, ce que le procureur a proposé, c'est de procéder par vidéoconférence. L'autre partie s'y est opposée. La raison qui a été présentée, c'était que la loi, c'est-à-dire le Code de procédure civile, ne permet pas, devant la Cour du Québec, de procéder par vidéoconférence pour ce qui est des interrogatoires avant et après défense, contrairement à ce qui est prévu pour la Cour supérieure, qui, elle, le permet. Donc, la réponse du tribunal à ça, bien, c'est écoutez, les objectifs, les nouveaux objectifs du nouveau code, bien, c'est rapidité, c'est limiter les coûts, etc. La loi ne l'interdit pas, elle ne le prévoit pas, mais ce n'est pas parce que la loi ne le prévoit pas que c'est interdit. Donc, c'est dans l'avantage, finalement, du bon fonctionnement de la loi, des tribunaux, etc., de procéder avec cette technologie-là, d'autant plus qu'elle est assez fiable. Il y a quand même un aparté dans la décision qui est intéressant où le juge vient dire, dans les faits, ça ne sera jamais pareil. Le fait de procéder par vidéoconférence ne nous amène pas exactement la même atmosphère que si on est là en présence l'un de l'autre, mais que pour le contexte, c'était suffisant. Donc, c'est la première décision qui cite la loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information. Qui la cite, mais en même temps qui ne s'y réfère que justement pour expliquer le contexte de l'affaire. Mais quand même, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une présentation de la loi qui est faite, ce qui n'avait pas été fait jusqu'à présent, là, une présentation assez complète. Deuxième décision, l'arrêt Citadel, compagnie d'assurance générale contre Montréal. Qui était une question, finalement, de communication des pièces. Il y a plusieurs des demandeurs qui désiraient avoir copie papier des documents, puisque proposait la Ville de Montréal, c'était de transmettre les documents, les pièces, sur CD. J'ai mis le dessin ici pour une raison. D'ailleurs, c'est scanningdirect.com, pour ne pas me faire chicaner de prendre la propriété intellectuelle de quelqu'un d'autre. Là, je vais faire la publicité gratuite. L'argument qui était invoqué pour justifier le fait qu'on voulait du papier, c'était des arguments d'économie et de commodité. En regardant le dessin comme ça, on peut voir que je ne suis pas certain que c'était vraiment plus économique, plus commode. En fait, ce qui était plaidé de l'autre côté, c'est qu'on disait, écoutez, si vous nous envoyez un CD, nous, c'est certain qu'il va falloir imprimer tous ces documents-là. Donc, finalement, c'est à nos clients que vont revenir les coûts d'impression. Pour ce qui est de la commodité, ben, c'est la même chose, c'est-à-dire on veut vérifier nos documents, on veut toucher, on est habitué, nous, les avocats, d'avoir des documents papier entre les mains. Donc, on ne veut pas un CD. Ce que la Cour a fait, ben, la Cour a simplement cité les dispositions du CON, c'est-à-dire l'article 2841 qui parle de la reproduction d'un document par l'obtention d'une copie sur un quelconque support, 2842 qui vient dire que dans certains cas, il est nécessaire là, d'authentifier le document, en fait, de l'appuyer d'une déclaration disant que le document est authentique, puis les dispositions pertinentes de la loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information. En fait, c'est une loi qui est très courte où le juge, finalement, dit, écoutez, il fait la demande, veut déposer ça sur CD, la loi le permet, donc voilà, il peut le faire. Ce qui est surprenant, c'est finalement, puis ce qui est intéressant dans cette décision-là, c'est la conclusion, où le juge vient dire, la matière étant nouvelle, chacune des parties paiera ses frais. Pourtant, dans le cadre de la décision, le juge vient bien parler de la loi, dit que la loi est entrée en vigueur en novembre 2001, puis que les modifications au Code civil également ont été appliquées depuis novembre 2001. Donc, finalement, est-ce que la question est vraiment nouvelle dans la mesure où même le juge vient dire lui-même, écoutez, c'est nouveau, mais ça existe depuis 2001. La réponse, normalement, lorsque on a une conclusion comme ça, où on dit que la matière étant nouvelle, bien, c'est quand il y a une interprétation d'une disposition du Code civil dont on n'est pas certain depuis des années. Les gens, il y a une incertitude devant les tribunaux. La moitié de la jurisprudence dit blanc, l'autre moitié dit noir. Donc, à ce moment-là, on retrouve une conclusion comme ça. Mais ici, le juge a appliqué tout bêtement la loi, puis c'est ce qu'il dit. Il dit, écoutez, la loi dit ça, donc voilà, on applique la loi telle quelle. Il n'y a pas de problème. Donc, de dire que c'est d'application nouvelle, je ne suis pas certain. Puis, je retourne à la décision Mazerolle qu'on vient de voir, où la conclusion disait que le juge ordonne que tout document devant servir lors du ou des interrogatoires soit communiqué par un moyen technologique approprié au procureur de la partie adverse. La question n'est pas nouvelle, dans mesure où Mazerolle est arrivé quelques mois avant Citadel. Donc, une observation comme ça, ce qui me surprend, donc j'aurais personnellement obligé le Citadel à payer les frais, mais je ne suis pas juge, du moins pas encore. Donc, maintenant, passons aux décisions relatives à la juridiction sur Internet, qui sont, elles, un peu plus intéressantes. La première, Québec, procureur général contre produits métalliques, CMP, en fait, celle-là, je vais passer à travers très rapidement parce que c'est une décision qui vient nous rappeler simplement un principe qu'on connaissait déjà. Un site web situé sur un serveur à Montréal, c'est une entreprise montréalaise. Le site n'a pas été traduit en français, du moins pas au complet. Donc, pour ça, ben, il y a eu une amende de 500 $ qui a été imposée à la personne. Donc, ça nous rappelle que, bien que qu'il s'agisse d'un site web, bien que ce soit dématérialisé, puis que finalement, ça soit dans le cyberespace, il reste qu'on peut quand même se rattacher au pays d'origine. Ici, c'était quand même assez simple, dans mesure où la clientèle était québécoise, la compagnie était québécoise, puis le site était hébergé au Québec. Donc, c'est conforme au principe de territorialité des lois, pardon. Puis, ça rappelle également ce qui avait été décidé dans l'arrêt Québec contre Hyper Info Canada. Cet arrêt-là est un peu plus intéressant parce que c'est un site situé à Gatineau, si ma mémoire est bonne, dont la clientèle était strictement américaine et ontarienne. Donc, il n'y avait pas de clientèle québécoise. Puis, lui, son argument était, bien, écoutez, mon site n'est pas destiné au Québec, même que les gens qui avaient une adresse finissant par qc.ca n'avait pas accès au site. Mais la Cour avait dit, écoutez, vous êtes situé au Québec, les Québécois peuvent quand même accéder à votre site, donc vous devez traduire en français. Donc, décision Québec-PG contre produits métalliques, qui n'est pas particulièrement intéressante, mais qui nous rappelle là, ce principe-là. La deuxième, la commission des lésions professionnelles contre Godbout. D'ailleurs, petit aparté, vous verrez que toutes les citations sont REJB. Je fais de la publicité gratuite, c'est parce que je suis chroniqueur pour REJB, donc j'ai une entente. Donc c'est pour ça. Bien sûr, les décisions là, sont disponibles sur Canly. J'aurais peut-être dû mettre les deux citations pour satisfaire à mes anciens collègues. Commission des lésions professionnelles contre Godbout. Monsieur Godbout a eu affaire avec la commission. Les décisions de la commission n'étaient pas à son entière satisfaction. Il a décidé d'aller sur Internet et d'ouvrir un site web où il disait que les gens de la commission étaient tous des bip, 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 etc. Donc, la commission a demandé une injonction selon trois critères. Premièrement, demandait de retirer du site web tout ce qui est commentaires injurieux et diffamants, etc. Deuxièmement, de retirer de son site web, les œuvres, les marques de commerce, etc., la commission, parce que bien sûr, lui faisait rapport. Son site, en fait, c'est un site parodie, si on veut, mais malicieux. Donc, l'apparence était similaire à celle du site de la commission. Puis, la troisième ordonnance était de lui empêcher là, d'avoir ce site-là ou tout autre site qui aurait commission des lésions professionnelles dans l'URL. Les réponses de la Cour. Réponse à la première demande, la Cour a dit, écoutez, le fait qu'il vous critique, c'est son droit à la liberté d'expression. Si vous vous rendez compte qu'il y a diffamation, vous pouvez le poursuivre pour diffamation. Mais c'est beaucoup trop vaste comme demande de dire de retirer tout propos injurieux parce que quelque part, il va falloir décider au cas par cas, est-ce que tel propos est injurieux? On ne peut pas commencer à dire, bon, on prend le site web, puis on décortique d'un coup. Donc, il va falloir y aller au cas par cas. Donc, finalement, sur cet aspect-là, la Cour n'a pas donné suite à la demande d'injonction. Le deuxième, il accorde une ordonnance interdisant l'utilisation de la composition graphique de la page d'accueil du site de la CLP. Donc, finalement, tout ce qui est marque de commerce, propriété intellectuelle, ça, la Cour dit effectivement, il faut que ce soit retiré du site. Et le troisième... On ne lui interdit pas d'utiliser CLP ou commission parce que cet acronyme-là, le monsieur en fait la preuve lors de son témoignage, démontre qu'il y a des centaines et des centaines de sites qui ont CLP dans leur URL. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est spécifiquement attribué à la commission des lésions professionnelles. Là, jusqu'à présent, vous dites probablement, oui, mais ce n'est pas un problème de juridiction. J'y arrive. C'est là le problème, c'est que le propriétaire et l'administrateur du site, ce n'est pas monsieur. C'est un résident américain, quelqu'un qui habite en Floride, puis le serveur est également situé en Floride. Mais ça, la Cour le mentionne dans le jugement, mais n'en tient pas compte. À la fin, il y a les condamnations contre monsieur, c'est-à-dire l'obligation de retirer la propriété intellectuelle du site, mais le site ne lui appartient pas, ce que la Cour admet. Donc, il y a un petit problème ici. Il y a un deuxième round. D'ailleurs, round est un mot français. Je vous l'apprends, l'Office de la langue française, pour un round de boxe, c'est round en français. Deuxième round, donc, encore une fois, monsieur, sur le même site, va publier des nouvelles pages qui sont des parodies de pages qui étaient sur le site de la commission. Puis, cette fois-ci, il va, encore une fois, plaider, écoutez, ce n'est pas, oui, c'est moi qui ai rédigé, oui, c'est moi qui ai préparé la page, mais ça a été publié sur un site dont je ne suis pas l'administrateur, dont je ne suis pas le propriétaire, donc absolument rien que je peux y faire. La Cour, encore une fois, a simplement dit, écoutez, c'est vous qui avez rédigé, donc c'est vous qui avez violé le droit d'auteur. Ce qui, dans les faits, est vrai. C'est monsieur qui a violé le droit d'auteur. Maintenant, la propriété intellectuelle, plus généralement, puisqu'il y avait des marques de commerce. Mais il demeure que si monsieur n'a pas le contrôle sur le site. Donc, la question se pose, qu'est-ce qui arrive si Serge Morel, qui était le propriétaire du site, refuse de coopérer avec monsieur? On ne le sait pas. Ce n'est pas spécifié dans la décision. On attend peut-être un troisième round où monsieur va rétorquer. Donc, problème de juridiction qui est ici très apparent. Oui, monsieur enfreignait les droits de propriété intellectuelle de la commission. Oui, monsieur était dans le tort. Oui, c'est reconnu. Mais monsieur n'a pas de contrôle réel sur le site. En fait, je dis ça, c'est ce qui ressort de la décision. Par contre, lorsqu'on lit entre les lignes, on réalise que le site appartenait à monsieur, puis il a transféré la propriété à son ami en Floride, justement, pour échapper à cette problématique-là, mais il reste que dans les faits, là, on a un problème de juridiction qui existe. Troisième catégorie, les décisions relatives aux contrats électroniques. Là, on rentre dans ce qui était le plus intéressant cette année. Première décision, décision qui a fait quand même couler beaucoup d'angles pour une décision de la Cour du Québec surtout, à Spencer One contre PaySystem. Rapidement, PaySystem était l'hébergeur du site web de Aspenser. Puis, ont décidé un bon jour de changer leur politique d'utilisation. Ont affiché sur leur site web que lorsque quelqu'un accédait au site, il acceptait la nouvelle politique. Puis, voilà. Donc, dans cette nouvelle politique, il y avait une clause qui renvoyait, si je me souviens bien, en arbitrage. Puis, donc, problème arrive entre les parties. PaySystem demande d'aller en arbitrage, puis là, était la question. Là, je veux juste m'assurer, je ne me mélange pas avec Dell, mais le contexte étant le même. Donc, ce que la Cour vient dire, bien, c'est ce qui est à l'écran, c'est-à-dire qu'il importe que la procédure utilisée par le vendeur du site Internet ou l'hébergeur soit telle que l'acceptation de l'acheteur ou hébergé puisse être clairement donnée, sans équivoque, non pas par clause négative ou prévoyant acquiescement tacite au cas d'utilisation du site. Je vous laisse lire le reste. Donc, finalement, ce que la Cour vient dire, c'est, écoutez, le client, dans ce cas-ci, à Spencer, n'est pas lié par cette clause-là. Pourquoi? Parce que ce n'est pas suffisant simplement en disant, quand il arrive sur le site, qu'il est lié par cette clause, parce qu'il y a un problème de consentement. Charles Morgan, avocat de chez McCarthy Tétrault, a écrit un bref commentaire d'arrêt sur Spencer, qui est disponible sur Internet, où il fait trois critiques principales de la décision. La première étant qu'il faut prétendre que l'acceptation tacite d'une offre sur Internet ne peut être invoquée en droit québécois, parce que, dit-il, c'est ce que la Cour vient dire, c'est que l'acceptation tacite n'est pas applicable. Ensuite, deuxième chose, le fait de prétendre qu'un clic est insuffisant pour valoir consentement tout en se référant à l'affaire Rudder contre Microsoft est contradictoire. Troisièmement, le fait de prétendre qu'une signature est nécessaire pour la conclusion d'un contrat électronique n'a aucune base juridique. Dans ce commentaire-là, dans le fond, il vient s'attaquer à l'article de doctrine sur lequel le juge s'était basé, c'est-à-dire un article de Vincent Gautret et Yann McKay qui venait dire finalement qu'il faut plus qu'un clic pour qu'il y ait consentement sur Internet. Donc, lui vient dire, écoutez, cet article-là est intéressant, mais juridiquement, il n'est pas justifié. Et quatrièmement, il a mis cité deux décisions qu'il considère beaucoup plus pertinentes que celles qui sont citées, c'est-à-dire Canitz et Canadian Real Estate Association contre Sutton, décision que j'appelle simplement Sutton. Pour ce qui est donc des réponses que moi, j'avancerais là, aux critiques de M. Morgan, bien que je suis d'accord avec lui que le jugement aurait pu être plus étoffé, plus clair, puis bien que lui, tout comme moi, considère que la conclusion est bonne, que les juges sont arrivés à la bonne conclusion, l'argumentation n'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus solide. Puis, en fait, je ne suis pas certain que ça survivrait là, si la cause était portée en appel. Donc, pour ce qui est du premier et du troisième, la première et la troisième critique, ce que la Cour vient dire, dans le fond, c'est qu'il semble nécessaire tant à ses auteurs étant Yann McKay et Vincent Gautret, qu'à la Cour d'exiger une preuve plus valable d'acceptation d'un contrat informatique qu'un simple clic, sans possibilité de vérifier la rencontre des volontés qui forment un contrat ou qu'il doit y avoir accord de volonté. Dans le fond, ce que la Cour vient dire, c'est, écoutez, c'est même pas une question de savoir... ici, est-ce que clic vaut consentement, c'est de savoir est-ce qu'il y a véritablement eu consentement. Je veux dire, c'est la première étape du contrat, c'est ce qu'on apprend en première année de droit. Pour qu'il y ait contrat, il faut qu'il y ait consentement. Que ce soit tacite ou que ce soit actif, qu'on commette un geste concret, si on ne peut pas établir qu'il y a eu consentement de la part de l'autre partie, bien, il n'y a pas de contrat. Donc, sur cet aspect-là, ben, je considère que si on retourne aux deux critiques, c'est-à-dire l'acceptation tacite et le fait de prétendre qu'une signature est nécessaire, en fait, encore une fois, je suis d'accord avec Maître Morgan que la façon que ça a été présenté par la Cour n'est pas nécessairement la plus habile, mais il demeure qu'il faut qu'il y ait consentement, puis l'autre partie n'a pas été capable de prouver qu'il y avait consentement. Deuxièmement, pour ce qui est de Rudder, lui vient dire, écoutez, c'est contradictoire parce que Rudder, dans les faits, vient dire, je vous résume rapidement, Rudder, c'était la politique que personne ne lit d'à peu près tous les logiciels Microsoft. Dans le cas de Rudder, je crois que c'était Messenger, mais je ne suis pas certain, où les personnes n'avaient pas lu la politique tout au long, avaient simplement cliqué sur « I agree » pour passer à la prochaine page, puis installer le logiciel. Donc, il y a eu un problème, voulait intenter un recours collectif, voulait l'intenter en Ontario. Finalement, dans le contrat, lorsqu'on le lit convenablement, on se rend compte qu'il y a une clause qui dit que ce sont les tribunaux de l'État de Washington qui sont compétents. Donc, le juge dit, écoutez, vous avez cliqué « I agree ». Si vous n'avez pas lu le contrat en entier, ce n'est pas mon problème à moi. Donc, on renvoie le tout à Washington. Petit aparté dans Rudder qui n'est pas indiqué dans le jugement, les demandeurs dans Rudder, c'était deux étudiants en droit qui essayaient de se faire un nom. Du moins, c'est ce qui ressort là, de certains ouvrages de doctrine. Donc, on peut penser que ça peut être joué dans la balance. Là, ce n'était pas les consommateurs moyens. Donc, finalement, ce que Rudder vient dire, dans le fond, c'est que vous avez cliqué sur « I agree ». Donc, la critique de M. Morgan, c'est de dire, bien, écoutez, Rudder vient dire « un clic, c'est satisfaisant ». Dans votre cas, vous dites « un clic, ce n'est pas satisfaisant ». Donc, il y a incohérence, finalement, entre la décision et le fait de citer Rudder. Sauf que il y a un distinguishing important qui est fait avec Rudder. Ce que la Cour vient dire, c'est que ici, on a cliqué sur l'icône « I agree ». Dans le cas de Aspenser, c'est qu'on a simplement navigué tout bêtement sur le site, puis juste le fait de naviguer sur le site emportait supposément consentement à une clause dont on ne connaissait même pas l'existence. Donc, un distinguishing quand même important. Je vous ai mis, puis vous l'avez sur les documents, le passage de la décision qui en fait part. Donc, finalement, c'est ce qu'on pourrait répondre à la deuxième critique. Maintenant, la quatrième critique, je n'ai pas parlé dans mes diapositives de l'arrêt Canitz contre... merci, Rogers, parce que, en toute honnêteté, je ne suis pas, mais pas du tout d'accord avec cette décision-là. Je considère que la clause dans Rogers était une clause abusive, mais c'est mon opinion personnelle. Pour ce qui est de Sutton, Sutton est utilisé à toutes les sauces pour justifier le fait qu'on serait lié par une clause dans un contrat de BrowseWrap ou de ClickWrap. Par contre, il faut se replacer dans le contexte. Sutton, c'est une demande d'injonction. Demande d'injonction, il ne faut pas faire la preuve selon la balance des probabilités. Dans une demande d'injonction, il faut simplement répondre à trois critères, c'est-à-dire qu'il y a une apparence de droit, de montrer que finalement, on a plus de chances que si l'injonction n'est pas accordée pour l'instant, les risques de dommages sont plus grands pour nous que pour l'autre. Ce n'était pas interlocutoire. Puis finalement, qu'on va subir un préjudice irréparable. Donc, balance des inconvénients, apparence de droit, préjudice irréparable. On ne va pas au fond dans une demande d'injonction. Là, bien sûr, on n'est pas en injonction permanente, là, on est en interlocutoire. Donc, finalement, ce qu'on dit dans Sutton, c'est que Sutton plaide n'avoir pas consenti à ces conditions d'utilisation du site MLS. On continue. Le tribunal estime que cette discussion relève du jugement final. À ce stade, le tribunal doit conclure un droit apparent. Bon, sinon clair. Puis, dans le fond, c'est à ça que les gens s'accrochent, c'est sinon clair. Donc, il y a un préjugement sur une injonction qui dit que le droit semble être clair. Donc, ça y est, les gens sont liés par ces clauses-là. Mais encore une fois, il faut se replacer dans le contexte, dans un contexte d'injonction. On n'est pas dans un contexte de décision au fond. Le juge n'a pas accès à toutes les données, n'a pas accès à toute la preuve, n'a pas accès à toute la jurisprudence. C'est quelque chose de sommaire. Donc, de se baser sur Sutton pour arriver à cette conclusion-là, je trouve ça dangereux. De toute façon, Sutton, on peut la laisser de côté, puisque maintenant, on a la décision Union des consommateurs contre Dell, décision de la Cour d'appel, qui est sortie par la suite, donc très récemment cet été. Dans cette décision-là, le contexte, encore une fois, plusieurs consommateurs se rendent tout bonnement sur le site de Dell et se rendent compte qu'un un ordinateur, ou en fait une pièce qui rentrait là, dans la constitution d'un ordinateur, coûte 30$ au lieu d'en coûter 300. Aubaine de l'année, donc on commande la pièce. Dell se rend compte de ce qui se passe, réalise que c'est une erreur d'affichage, donc corrige immédiatement l'affichage sur son site, puis envoie un courriel à tous les gens qui se sont procuré le bien à une fraction du véritable prix, finalement, leur disant « Écoutez, c'est une erreur sur le site ». Ce n'est pas volontaire. Si vous voulez toujours acheter le bien, bien, il se vend à un montant X qui est beaucoup plus élevé que ce que vous pensiez payer pour. Donc, tous ces consommateurs-là ont porté plainte. L'Union des consommateurs s'est mise derrière, puis a intenté un recours collectif. Par contre, dans les clauses d'utilisation du site de Dell, qui, en passant, sont assez difficiles d'accès, il est indiqué que tout doit être transmis à l'arbitrage. Donc, tout doit être référé à l'arbitrage, pardon. Donc, qu'on ne peut pas finalement procéder par recours collectif. C'est ce que plaide Dell, puis Dell vient dire que donc les tribunaux du Québec n'ont pas compétence pour entendre le litige. Encore une fois, donc la question est la même, c'est à savoir... la clause qui est située sur le site dans les conditions d'utilisation, est-ce qu'elle est opposable au consommateur? J'ai fait le test quand la décision est sortie d'aller lire cette clause-là. Une fois que je suis arrivé sur le site de Dell, j'ai dû passer par 3 pages. Puis moi, je savais exactement, j'avais le texte de la clause devant les yeux. Donc, j'ai dû passer par 3 pages, puis ensuite défiler pendant quelques secondes pour finalement arriver à la clause, puis j'allais avec mots clés. Donc, moi, avec tout ce que je savais, ça m'a quand même pris presque 1 minute, là, ce qui ne semble pas énorme, mais qui est quand même beaucoup quand on parle là, de surfing. Ça m'a pris presque 1 minute pour trouver, pour arriver finalement sur la clause. Puis là, cette clause-là, on l'opposait au consommateur. Ce que la Cour est venue dire, finalement, c'est que finalement, cette clause-là, c'était difficile d'y accéder. Ce n'est pas nécessaire d'accéder aux conditions d'utilisation du site pour naviguer sur le site et pour aller acheter le bien en question. Donc, finalement, tout ce qu'il y avait, c'était un renvoi dans le contrat. Que ce renvoi-là, bien, c'était une clause externe. Le Code civil du Québec vient dire qu'une clause externe doit être expressément apportée à l'attention du consommateur pour lui être opposable. Donc, finalement, les clauses ne sont pas opposables au consommateur, ce qui fait que la Cour a juridiction, a compétence. Je ne l'ai pas ici. D'autres aspects qui étaient intéressants dans la décision d'elle, mais que ce ne sont pas propres aux technologies de l'information, il y avait tout le débat à savoir est-ce qu'on peut imposer l'arbitrage dans un contrat de consommation. Mon réflexe était de dire non. Si on regarde la loi sur la protection du consommateur, les dispositions parlent toujours du terme tribunal, utilisent le terme tribunal. Si on se réfère à tout ce qui est à toute autre loi, tribunal, normalement, bien, c'est des tribunaux classiques qu'on connaît. La Cour vient dire, par contre, oui, c'est vrai que ça englobe normalement les tribunaux classiques, mais le législateur n'avait pas l'intention d'exclure l'arbitrage. Donc, c'est possible de faire de l'arbitrage en droit de la consommation. J'ai écrit un commentaire sur l'arrêt qui est publié sur RGB où je souligne simplement que effectivement, bon, j'accepte moi cette position-là de la Cour. Sont bien sûr beaucoup plus sages que moi. Puis dans le fond, je l'accepte parce que je l'aime bien. Je trouve ça génial de pouvoir faire de l'arbitrage si le consommateur le veut bien. Faut recourir à l'arbitrage parce qu'on a tous les avantages là, qui sont présents. Je pense que je n'ai pas besoin de vendre ça. M. Binclef le ferait probablement beaucoup mieux que moi. Mais les modes alternatifs de résolution de conflits ont beaucoup d'avantages que les tribunaux n'ont pas. Facilité d'accès, etc. Donc finalement, tant mieux si les tribunaux sont ouverts à ce qu'on passe par cette voie-là. Par contre, là où j'ai un X, c'est que je ne suis pas certain, puis ça, la Cour n'en a pas parlé, j'aurais bien aimé qu'elle le fasse. Dans le Code civil, si on se réfère dans le Code civil aux décisions qui traitent de l'arbitrage, je vous renvoie dans le Code civil, je l'ai ici, à l'article 3148. 3148 vient dire « Les autorités québécoises ne sont pas compétentes lorsque les parties ont choisi par convention de soumettre le litige né ou à naître entre elles à propos d'un rapport judiciaire déterminé à une autorité étrangère ou à un arbitre, à moins que le défendeur n'ait recours à la compétence des autorités québécoises. » Si on prend cet article-là de commun avec 1437, ce qu'on vient réaliser dans le fond, c'est que lorsqu'on parle des autorités québécoises, on n'inclut pas les arbitres, c'est seulement les tribunaux. Or, en droit de la consommation, ce sont les autorités québécoises qui sont compétentes. Puis on ne peut pas imposer à un consommateur de ne pas recourir aux autorités québécoises. Donc, c'est une observation que j'ai comme ça. Dans le fond, c'est une question ouverte que j'ai posée dans mon commentaire, à savoir est-ce que finalement le code ne viendrait pas dire qu'on ne peut pas recourir à l'arbitrage. J'en suis pas certain, j'espère qu'on me dise que je me trompe, parce que, encore une fois, comme je le dis, moi je trouve que ça serait génial de permettre le recours à l'arbitrage. Bien sûr aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que il n'y a rien qui empêche le consommateur de décider d'aller en arbitrage, mais il peut toujours recourir aux tribunaux également. Donc, c'est ambivalent là, dans la décision. L'autre aspect, bon, je pense que je vais le sauter, je reviendrai plus tard si j'en ai le temps. On va passer aux décisions en propriété intellectuelle parce que le temps file très rapidement puis je me rends compte que je n'ai pas fait la moitié de ce que je voulais faire. Propriété intellectuelle, première décision, pourvoirie du lac rapide. Décision qui a plus ou moins d'importance. En fait, c'est une question où quelqu'un a approché la pourvoirie, leur a dit « Écoutez, je vais vous trouver des chasseurs, donnez-moi un pourcentage, on s'entend comme ça. » Puis on a une bonne entente, donc un contrat qui se forme entre les parties. Quelques jours, quelques mois plus tard, ça tourne au vinaigre, l'entente ne fonctionne pas, la personne se retire, donc la pourvoirie le poursuit parce que lui avait promis d'obtenir un certain nombre de chasseurs. Là où c'est intéressant, hein, pour ce qui est des technologies de l'information, c'est ce passage-ci où monsieur avait préparé un site web sur lequel il y avait un hyperlien qui dirigeait vers le site de la pourvoirie. Donc, les gens de la pourvoirie disaient « Écoutez, ça viole notre propriété intellectuelle, ça porte atteinte à nos droits, ça cause la confusion, est-ce qu'il est lié à nous ou non? » Donc, le tribunal vient dire « Écoutez, là, c'est un hyperlien, c'est clairement deux entités distinctes. » Donc, c'est intéressant sur cet aspect-là, c'est de dire juste le fait d'avoir un hyperlien qui pointe vers un autre site n'équivaut pas à dire que les sites sont liés. Deuxième affaire, l'affaire Netboard contre Avery Holdings. Affaire très compliquée, question d'ordonnance Anton-Piller. C'est en gros la défendresse, le dirigeant ainsi que d'autres personnes sont des anciens employés de la demanderesse qui vend des télévisions plasma sur Internet. Donc l'un des reproches qui est fait par la demanderesse à la défendresse, c'est d'avoir volé ses listes de clients, etc., etc. Une ordonnance Anton-Piller pour aller chercher l'information chez la défendresse. C'est refusé sur à peu près tous les points, mais l'un des aspects qui est particulièrement intéressant, c'est celui qui est à l'écran présentement, c'est-à-dire que la demanderesse plaide que la défendresse a copié ses métatags, affectant ainsi son classement dans Google. Moi, ça m'a surpris d'abord parce que je pensais que Google n'utilisait plus les métatags. C'est ce qu'on m'avait dit, que Google avait utilisé maintenant une technologie beaucoup plus sophistiquée que les métatags. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, parce que c'est quasiment, ça vient presque de l'ère jurassique de la recherche sur Internet, les premiers moteurs de recherche n'allaient pas dans le cadre des textes pour les classer. Je pense à AltaVista et Yahoo à leur tout début. Ils allaient simplement dans les métatags. Les métatags, finalement, c'est quoi? C'est quelques lignes de code dans le haut d'une page HTML qui ne paraissent pas lorsqu'on visualise le document. Puis là, ben, on insère notamment le titre de la page, le nom de l'auteur, etc. Puis, on y insère plusieurs mots-clés. Il y a quelques années, il y avait beaucoup de problèmes avec les métatags. Puis, la question, c'est une question de propriété intellectuelle, mais de marque de commerce, parce qu'il y avait plusieurs entreprises, notamment dans le domaine des thermopompes au Québec, où ce que les gens faisaient, c'est que sur leur site, dans leur métatags, ils allaient mettre 20 fois le nom de leur compétiteur. Donc, lorsqu'on cherchait le compétiteur sur un engin de recherche, on arrivait sur leur site en premier. Ça, comme je vous dis, moi, je pensais que c'était du passé parce que la plupart des outils de recherche utilisent des techniques beaucoup plus sophistiquées. Mais Google utilise une technique qui s'appelle le Google Dance. Et non, ce n'est pas ce qu'ont fait les propriétaires quand ils sont présentés à la bourse. Mais c'est... c'était très mauvais comme blague, je m'en excuse. C'est que Google, 3 ou 4 fois par année, va changer de méthode pour répertorier les sites. Donc, vont utiliser les métatags. C'est ce qui est expliqué dans la décision. Donc, j'imagine que la recherche qui a été faite, qui a été présentée, est bonne. Sinon, ben, c'est de la faute des gens, des avocats de Netboard et Avery Holdings. Mais ce qui est présenté dans la décision, c'est que Google va utiliser métatags un mois. Le mois d'après, ça va être le texte des pages de présentation. Le mois suivant, ça va être un mix entre diverses informations qui se retrouvent sur diverses pages du site. Ce qui fait que si vous faites la même recherche sur Google à différentes périodes dans l'année, ce ne sera pas nécessairement les mêmes sites qui vont arriver en premier. Puis, en fait, c'est la contre-argumentation de Avery Holdings qui vient dire que finalement, le fait, parce que ce qui leur était reproché, bien sûr, c'est qu'en utilisant les métatags, ils ont nui à leur classement dans Google. Puis Avi Holdings a dit non, 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 ce n'est pas à cause de notre utilisation de vos métatags, même si on nie le faire. C'est simplement à cause de cette réalité-là qui est le Google Dance. Argument qui a été accepté par la Cour. Mais il y a un passage, puis encore une fois, c'est juste un passage de 5 lignes dans la décision qui est très intéressant, qui vient dire que les métatags, probablement que ce ne serait pas protégé par droit d'auteur, ce ne serait pas protégeable par droit d'auteur. On fait référence ici à l'arrêt télédirect, pardon, qui vient dire, dans le fond, que les informations dans un bottin téléphonique, ce n'est pas protégeable par droit d'auteur parce qu'on y va, dans le fond, avec une suite logique, c'est-à-dire on y va par ordre alphabétique. Donc, c'est normal que tous les bottins vont se ressembler et même que c'est souhaitable parce que s'il y en avait un qui était en ordre alphabétique puis l'autre en ordre de... J'essaie de voir un autre ordre logique pour un bottin, puis j'en vois pas parce qu'on est justement tellement habitué que ce soit par ordre alphabétique. Donc, c'est ce qui était dit à ce moment-là. Bien, ça ne fonctionne pas. Ce qui est protégeable, par contre, c'est le choix de quelle information on met. Mais si c'est un bottin téléphonique où on fait simplement répertorier tout le monde qui est dans un secteur donné, bien, il n'y a pas de choix, il n'y a pas de discrétion, il n'y a pas d'arrangement qui donne là, les qualités nécessaires pour qu'on puisse prétendre à innovation puis à ce qu'il y a un droit d'auteur. Ce passage, encore une fois, un aparté de la Cour, mais qui vient poser une question drôlement intéressante, à savoir, est-ce que les métatags, premièrement, est-ce que c'est encore pertinent de se poser la question aujourd'hui? Il semble que oui, parce que Google les utilise toujours. Mais deuxièmement, est-ce que c'est protégeable par droit d'auteur? Ensuite, la décision qui a fait couler le plus d'encre cette année, la décision BMG Canada contre Doe. Pour ceux et celles qui n'en ont pas entendu parler parce qu'ils n'écoutent pas la radio ou ne regardent pas la télévision, en gros, toute l'industrie du disque au pays réalise que les MP3, ça leur fait mal, donc décide de poursuivre certains internautes qui sont réputés pour partager beaucoup de fichiers musicaux qui, prétend-il, sont illégaux. pardon. Donc, veut poursuivre ces usagers-là. Bien sûr, les personnes ont des noms fort intéressants comme Casa User Sex God Number One ou quelque chose comme ça. D'autres, des noms comme ça qui font que, justement, c'est très difficile de les retrouver dans le bottin. On demande à la Cour fédérale de prononcer une ordonnance enjoignant les fournisseurs d'accès Internet de fournir l'information nécessaire pour identifier ces personnes-là pour qu'ensuite on puisse les poursuivre. Ce qui est particulièrement intéressant de cette décision-là, c'est que la Cour vient, dans le fond, dire « Écoutez, ça ne fonctionne pas, votre appel est rejeté, mais si jamais vous voulez recommencer, voici ce qu'il faut faire pour que la Cour accepte de prononcer l'ordonnance. » Premièrement, la Cour vient dire, puis c'est ce qui est très drôle, le recours est intenté sous 233 des règles de la Cour fédérale. L'article 233 vient dire simplement, c'est une ordonnance enjoignant quelqu'un à produire un document en sa possession qui pourrait nous aider dans notre dossier. Ce qui est dit en première instance, écoutez, il n'y a pas un document qui existe. Les informations que vous voulez, ça se retrouve dans nos banques de données, mais il n'y a pas un document concret qui a le nom des personnes que vous voulez. Donc, ça, faudrait produire ce document, faudrait le préparer. Le document n'existe pas. Dans la mesure où il n'existe pas, ça échappe à 233, puisque 233 demande un document existant. Donc, c'était un des aspects sur lesquels ça a été rejeté en première instance, ce qui a été réitéré par la Cour d'appel. Mais ce que la Cour vient dire, c'est « OK, 233, ça ne fonctionne pas. Puis, donc, votre appel est rejeté. Là, on est en page 11 du jugement. Votre appel est rejeté. Maintenant, voici. Nous, on vous suggère d'aller sous 238. 238 est beaucoup plus vaste. 238 vient dire que vous pouvez finalement faire ce qui équivaut à un interrogatoire d'un tiers. Donc, essayer d'obtenir les informations. Donc, procéder sous 238. Puis, pendant 7 pages dans le jugement, il vient plaider comment procéder sous 238, jurisprudence à l'appui, qu'est-ce que les gens pourraient rétorquer. De l'autre côté, pourquoi ces arguments-là devraient être rejetés. Donc, finalement, prépare leur plaidoirie au complet. Personnellement, si j'étais l'avocat de BMG et compagnie, puis que j'allais replaider demain, moi, je prendrais la décision, puis je lirais du début à la fin les pages 11 à 18. Deuxième suggestion, c'est de faire la preuve que l'information ne peut être obtenue autrement. Dans la première décision, le juge a dit « Oui, mais ces informations-là, vous les demandez des fournisseurs d'accès, ne pourriez-vous pas les demander de CASA? » CASA étant l'outil qui est utilisé pour faire le partage de fichiers. Donc, il faut aller chercher à quelque part cet outil-là. Donc, pourquoi vous n'allez pas sur ce site-là puis demander à ceux qui fournissent l'outil en même temps de vous fournir la liste des gens qui se sont procurés l'outil? Disons que c'est un peu surprenant comme argument parce qu'on s'entend tous, ça va de soi, que lorsqu'on fournit un outil qui est considéré par bien des gens comme étant illégal, on ne va pas demander, on va pas garder un répertoire de tous les gens qui sont venus se le procurer. Donc, il me semble que ça laisse en dire que CASA n'a pas cette information-là, mais quand même, la Cour est venue dire, vous devez faire la preuve que les seules personnes qui peuvent vous la donner, l'information, ce sont les fournisseurs d'accès. Ensuite, s'assurer de limiter les coûts pour les FAI. La Cour vient dire, écoutez, c'est très cher, ça va être très dispendieux pour eux d'aller fouiller dans leur banque de données, associer les noms aux bons utilisateurs. Ce sont des frais pour eux. Eux, ce sont des tiers neutres dans le fond. Donc, on vous demande de faire tout ce qui est en votre moyen pour limiter les coûts. Limiter les délais entre l'enquête et la demande d'information. Une chose qui leur était également reprochée en première instance était le fait qu'ils ont attendu plusieurs mois entre le résultat de leur enquête et leur demande auprès des FAI. Puis, l'un des arguments des FAI qui a été adopté par la Cour était de dire, bien, écoutez, il y a tellement de changements sur Internet que la personne qui a l'adresse IP un tel une semaine ne l'aura plus nécessairement la semaine suivante. Ce qui veut dire que le nom qu'on vous donne aujourd'hui n'est pas nécessairement le bon nom parce que ça se peut qu'il y a eu trois propriétaires de cette adresse-là depuis que vous avez fait vos recherches. Ensuite, limiter la demande aux informations personnelles nécessaires à la poursuite pour violation de droits d'auteur. La demande était considérée trop vaste. On avait peur que certaines des informations recueillies soient utilisées à d'autres fins et qu'elles ne soient pas finalement utiles pour identifier ces personnes-là. Donc, je vous dirais, c'est à suivre. La Cour vient de donner toute l'information nécessaire aux procureurs de BMG et compagnie. Donc, j'ai l'impression là, que c'est une question de semaines, sinon de jours, avant que ça ressurgisse. Décision relative à la diffamation maintenant. La première, le mis contre Dubois. C'est une question d'atteinte à la vie privée où c'était une personne, Lemay, était le sujet d'un reportage fait par Dubois pour son employeur. Madame Dubois, était supposée aviser Madame Lemay par courriel de la date du reportage. Au lieu de faire ça, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle est allée sur un blog, puis elle a affiché l'information pour que tous puissent la voir. Puis, dans ce qui était indiqué, il y avait plusieurs informations qui étaient personnelles, donc qui portaient atteinte à la vie privée de Mme Lemay. Donc, Mme Lemay poursuit Mme Dubois, mais poursuit également son employeur sous prétexte que l'ordinateur utilisé appartenait à l'employeur, puis que, dans le fond, ça avait été fait dans le cadre des activités de l'entreprise, c'est-à-dire que la raison que l'information était envoyée, dans le fond, c'était pour l'aviser de la date du reportage, ce qui faisait partie de sa description de tâche chez l'employeur. Je vous laisse deviner ce que la Cour a dit. La Cour a dit que l'employeur n'était pas responsable, que ce n'était pas dans le cadre des activités de l'entreprise que le document avait été envoyé. Que le fait d'utiliser l'ordinateur, donc, n'était pas pertinent. Encore une fois, je ne suis pas certain. La décision est très courte. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas écrites qui ont influencé la Cour. Mais moi, je trouve ça quand même assez surprenant dans la mesure où les informations dommageables ont été transmises pour l'aviser de quelque chose, puis que le fait de transmettre cet avis-là, c'était dans sa description de tâche. je vois mal comment on peut dire que ce n'est pas dans le cadre des activités de l'entreprise que ça a été fait, mais encore une fois, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de non-dits dans cette décision-là. Ensuite, Agence nationale d'encadrement du secteur financier, coopérative des producteurs de bois précieux. Décision fantastique. Je vous suggère de la lire juste parce que c'est très drôle. Monsieur fait des transactions de valeur mobilière, mais n'a pas les permis nécessaires. Donc, se fait taper sur les doigts. Il n'est pas content. Donc, part un site pratiquement d'anarchisme. Se rebaptise sergent ou caporal, puis invite les gens à finalement renverser l'État parce qu'il ne peut pas vendre de valeur mobilière sans avoir la permission de l'Agence nationale qui, originalement, était le nom original, valeur mobilière, Commission des valeurs mobilières, voilà. Donc, où son site web commence à dire comme quoi c'est scandaleux, tout le monde partons en révolution contre la Commission des valeurs mobilières, c'est grand méchant. Donc, plusieurs propos injurieux et finalement, la Cour lui ordonne de fermer le site web. Au lieu d'écouter l'ordonnance, lui décide de rendre le site privé, donc on ne peut plus y accéder sans utiliser le mot de passe. Le tribunal vient dire que dans le fond, ce n'était pas suffisant, qu'il fallait réellement fermer le site web parce que c'était ce qui était ordonné. Mais là où c'est surprenant, c'est ce passage-ci. Il apparaît au tribunal que la requérante avait à bon droit demandé une injonction pour que ce site Internet soit fermé. Je vous renvoie à l'arrêt Godbout dont on a parlé tout à l'heure où le juge est venu dire, écoutez, on ne peut pas lui dire de fermer le site parce que ce serait beaucoup trop vaste. Il y a des propos injurieux, mais il faut cibler les propos. Là, ici, le juge dit, écoutez, on ferme le site. Il y a quand même une distinction importante qui est celle que je vous disais, c'est-à-dire lui était en guerre. Là. C'était utilisait les termes de guerre, parlait pas de lancer des bombes, mais pratiquement. Donc, c'était beaucoup plus... Il y avait beaucoup plus de véhémence dans son discours, c'était beaucoup plus haineux comme discours. Donc, effectivement, c'était plus grave que dans Godbout, où c'était clair que Godbout, dans le fond, ricanait un peu en même temps. Mais il reste que là, on ordonne la fermeture d'un site complet parce que certains des propos sont injurieux, ce qui me semble contraire à la décision Godbout. Autre décision, Gougou contre Gérard. Donc, encore une fois, c'est une requête d'outrage au tribunal. Ici, on avait demandé de retirer les informations personnelles concernant les requérants sur un site web. Donc, le résultat a été tel que le juge a acquiescé à la demande. Donc, on ordonne de retirer les informations personnelles. C'est une demande d'injonction. Donc, les informations sont effectivement retirées, mais il demeure que sur le site, on met un lien direct vers le CIDREC. Le CIDREC qui est le registre des entreprises, où on retrouve les coordonnées de tous les dirigeants, donc leur adresse, code postal, etc. Donc, finalement, ce qui était plaidé par les demandeurs, par les requérants, les intimés sont venus faire par la bande ce qu'ils n'avaient pas le droit de faire, ce que la Cour leur a interdit de faire. La Cour est venue dire non. L'ordonnance disait sur votre site ou sur un site que vous contrôlez. Ils ne contrôlent pas le CIDREC. Donc, techniquement, effectivement, c'était à l'extérieur de l'ordonnance. L'ordonnance était mal rédigée. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que le CIDREC, il y avait déjà un renvoi au CIDREC qui était fait sur le site original. C'était pas exactement pareil, mais reste que le renvoi était déjà là. Puis, dans l'ordonnance, on ne demandait pas d'éliminer le renvoi au CIDREC. Donc, il y avait cet aspect-là aussi dont il faut tenir compte. Mais il reste que c'est surprenant de dire que, dans le fond, de renvoyer aussi facilement vers un autre site qui va diffuser toute l'information qu'on n'a pas le droit de diffuser selon une ordonnance de la Cour, je suis un peu ambivalent quant à la décision. En droit, je la considère, effectivement, l'ordonnance disait ça, vous avez sorti du cadre de l'ordonnance, mais dans les faits, peut-être une question d'équité, il me semble que ça ne fonctionne pas. Vaillancourt contre Gagné, Demandeur, présente une requête pour ordonnance de sauvegarde afin de cesser la publication de propos diffamatoires sur un blog. Ici, c'était une dame qui donnait des conférences sur les perroquets. Cette dame-là permet à un tiers de donner les conférences à sa place, finalement. Donc, elle est rendue assez connue, assez importante dans le milieu, qu'elle a des sous-conférenciers, si on veut. Puis, donc, engage cette personne-là, lui donne la conférence, utilise le nom de madame, utilise ses notes de cours, etc. Finalement, ça ne fonctionne pas très bien entre les deux. On met fin à la relation. Puis, monsieur continue tout de même à utiliser ces informations-là. Puis, il y a un blog sur le site de monsieur qui tient des propos injurieux à l'endroit de madame. Donc, on demande, bien sûr, cesser la violation des droits d'auteur, de cesser l'utilisation des notes de cours de madame, etc. Puis, on demande également de retirer les propos haineux de sur le blog. Ce que la Cour vient dire, c'est ce qui me paraît évident, surtout après avoir lu la loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information. La première chose à faire, si on veut que des informations soient retirées sur un blog, c'est de montrer que les personnes qu'on met en demeure de retirer les informations ont un contrôle quelconque sur le blog. Chose qui n'a pas été faite. Puis c'est pourquoi cette demande-là, cette partie-là a été rejetée. Ce qui est d'autant plus surprenant, puis dans le fond, ça vient boucler la boucle pour mon exposé, c'est que les procureurs n'ont pas plaidé les dispositions pertinentes de la loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information quant finalement au principe de notice and takedown, là, plus ou moins, là, c'est-à-dire qu'il faudrait aviser les hébergeurs du fait qu'il y a des informations sur leur serveur qui portent atteinte à notre réputation ou quoi que ce soit. Puis toutes les dispositions finalement qui ont été créées, là, la loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information a été créée pour justement ce genre de conflit-là, de savoir qu'est-ce qu'on fait avec la personne qui est propriétaire du blog. Puis il n'y a aucun allégué qui est relatif à cette loi-là. Donc ça vient finalement reprendre ce que je disais au tout début, on a un problème avec la loi. Problème d'utilisation par les juristes, problème de connaissance par les juristes. Puis malheureusement, je n'ai pas la solution parce que les seules personnes qui parlent de la loi, ben, ce sont les gens comme vous et moi qui sommes intéressés par le droit des technologies de l'information, alors que c'est une loi pourtant qui est une loi sur la procédure, qui est une loi sur le droit général, qui n'est pas une loi sur l'informatique. Donc sur ce, je vous remercie énormément de m'avoir écouté et je rends la parole à M. Trudel.
Alors, merci. Alors, je vais m'asseoir. La période usuelle, je m'excuse, de discussion et de questions est ouverte. D'abord, merci pour cet exposé tout à fait stimulant et passionnant, donné par un passionné, si on le voit, on le sent. Et donc, je ne serais pas du tout surpris que les propos de notre conférencier d'aujourd'hui ont soulevé des questions, des interrogations. Oui, alors je vous invite à prendre le micro parce que, comme je le disais au début, nous captons le son et la bande sonore de cette activité sera sur le site de la chaire LR Wilson, chairelrwilson.net. Alors, ce n'est pas un avertissement, ce n'est pas une mise en garde contre vos propos. Si vous ne souhaitez pas que vos propos y soient, on peut trouver une solution pour les enlever. Mais
Non, alors j'avais une question, en fait, qui a été suscitée par la dernière intervention de la pause malgré tout. Alors, pourquoi, tout simplement, cette loi passe-t-elle inaperçue? Et pourquoi ceux qui, ceux qui s'intéressent aux technologies de l'information la connaissent? Et je soupçonne quand même, dans ces quelques cabinets qui ont plaidé toutes ces affaires, il devait bien avoir un ou deux qui connaissaient la loi, mais comment ça se fait que, dans les circonstances où ça pouvait se soulever, ils ne la soulèvent pas? Qu'est-ce qui expliquerait ces réticences intuitivement?
Je vais vous répondre, comme vous dites, intuitivement. Dans ma vie antérieure, lorsque j'étais étudiant ici, je travaillais à la bibliothèque, au laboratoire de micro-informatique. les questions, toutes ces histoires là, qu'on entend, les gens qui mettent la souris sur l'écran, les gens qui déposent leur tasse de café sur le lecteur de CD-ROM, etc., ce sont des choses que je voyais quotidiennement. Des gens, donc des juristes de 20 ans, on retourne en 1998-99, qui ne savaient pas comment allumer un ordinateur. J'ai comme l'impression que la plupart des juristes, c'est peut-être un jugement là, qui est non fondé, je dirais une réticence à aller vers les technologies. Peut-être lorsqu'on retourne au cégep, qu'on fait le choix, est-ce qu'on va en sciences ou est-ce qu'on va en sciences humaines, que les gens qui vont en sciences humaines y vont parce qu'ils ne sont pas capables de faire de sciences, puis qu'il y a beaucoup de gens en droit, on dirait que c'est ça qui s'est passé, c'est-à-dire que c'est des gens qui ne veulent pas toucher aux sciences. J'espère me tromper, mais j'ai l'impression que c'est un des problèmes. L'autre problème, c'est une critique là, qui n'est pas nouvelle, que plusieurs ont fait avant moi, puis plusieurs font depuis 2001, c'est que la loi est fort compliquée. La loi est difficile à comprendre pour un juriste pur et dur, qui n'est pas quelqu'un qui est imbibé là, dans toute cette... tout le domaine informatique, c'est clair que la loi a été rédigée avec des gens qui ne sont pas juristes, des gens qui sont en technologie. Certains diront qu'il y a plusieurs avantages, c'est-à-dire qu'elle reflète mieux la réalité, peut-être, mais ce n'est pas un document qui est facile à lire pour le juriste moyen, vu que ces gens-là vont simplement lire, premièrement, juste le titre. Loi concernant le cadre juridique et de l'information, il y a bien des gens qui vont s'arrêter au titre et dire « oui, bon ». C'est peut-être un petit peu compliqué. Ça doit simplement s'appliquer à la technologie. Mes dossiers ne sont pas en technologie, ils sont en droit de la famille, ils sont en droit criminel. Je n'ai pas besoin. Puis là, ce que je vous dis, c'est même pas une impression, c'est un témoignage. Je me suis carrément fait dire ça. Oui, mais c'est compliqué, je ne suis pas sûr. Le titre est long, je ne suis pas sûr de comprendre. Je vais laisser ça aux experts. Si j'ai un dossier qui... peut-être touche à la technologie, je te l'enverrai. C'est des faits vécus. Je dirais que les deux problèmes que je vois, c'est ça. Premier problème, c'est que les gens en droit ne sont pas nécessairement enclins à adopter la technologie. Comme je vous disais au tout début, des collègues à qui je disais « envoyez-moi un courriel » qui disait « ma secrétaire est déjà partie, je ne peux pas ». Puis deuxièmement... la loi est très difficile à comprendre. Pour ce qui est du premier élément, j'ai l'impression que ça va être porté à disparaître. Le deuxième, par contre, reste que la loi est difficile.
Bonjour. Deux questions. Une pratique. Il vous reste-tu des textes de la présentation d'abord?
Je devrais en avoir en avant. Okay. Sinon, j'imagine que ça va être disponible sur le site.
OK.
Sur la table. Okay. Je vous invite à vous servir. Et il sera disponible sur le site de la chaire aussi.
OK.
Celle-là était facile. La deuxième?
Je suis responsable de la formation en droit du travail à la FTQ. Et évidemment, la décision Lemay contre Dubois m'intéresse. Est-ce que je comprends bien que le recours d'atteinte à la vie privée de Mme Lemay a été gagné, mais seulement la salariée responsable?
En fait, c'est exactement. C'est seulement contre la salariée que ça a été retenu. En fait, à l'origine, le recours était seulement contre la salariée, d'ailleurs. Okay. On a amendé la requête pour ajouter l'employeur. Puis finalement, l'employeur a été retiré. Ben, en fait, la Cour a dit que l'employeur n'était pas fautif dans le dossier.
C'est assez étonnant, en tout cas.
Moi, je partage votre étonnement. Personnellement, comme je disais tout à l'heure, j'ai l'impression que dans mesure où l'une des tâches de madame était de transmettre l'information, c'était ça sa job, là, entre
guillemets.
C'était
son boulot, c'est ça.
Son boulot, c'est de transmettre l'information. Puis elle l'a fait durant les heures de travail, à la demande de son patron. La seule chose, c'est que ça a été fait sur un blog au lieu d'être fait par courriel. Donc, la méthode de transmission de l'information n'était pas celle qui avait été requise, mais la transmission de l'information a quand même eu lieu à la demande de son employeur.
Puis vous ne savez pas si cette décision-là est en appel ou...
Non, je ne crois pas. Comme je vous dis, j'ai regardé sur RGB, puis il n'y avait pas de mention là, qu'un appel. Donc, normalement, il ne devrait pas en avoir.
Je vais vérifier ça. Merci beaucoup.
D'autres, oui, d'autres questions, d'autres commentaires? Oui.
Ce serait par rapport à un autre arrêt que vous avez mentionné, l'arrêt Citadelle contre Montréal, la communauté urbaine de Montréal. Donc,
oui.
C'est la situation où c'est un dévoilement de preuves.
Exactement.
Au lieu de produire une quantité astronomique de documentation papier, l'on produit par le biais des technologies de l'information. Ce qui était bien, donc la Cour en vient à la conclusion que la divulgation peut se faire sur un support finalement électronique en se basant sur la loi sur les technologies de l'information. Maintenant, la loi, ce qu'elle dit, c'est que ce document-là électronique, il a la même valeur, il lui reconnaît une valeur. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait par rapport à la règle des meilleures preuves? Puisque c'est souvent la question qui est soulevée, dans la mesure où les documents originaux existent toujours, la personne ne serait pas en droit de demander ces documents-là, parce que c'est une question qui se pose souvent lors de la numérisation, lors de justement du transfert de support. Tant que l'original subsiste, qu'est-ce qu'il y en est?
Bien, en fait, c'est ce que d'ailleurs c'est mentionné, la Ville de Montréal permettait l'accès aux documents originaux. Lorsqu'on communique les pièces au support d'une requête, on ne va jamais communiquer les originaux à l'autre partie. Les originaux sont gardés pour la Cour. Donc, en soi, la question techniquement ne se pose pas maintenant. Elle se pose nécessairement au moment où on est devant la Cour, devant le juge, puis que là, il faut effectivement produire les originaux, à moins qu'il y ait consentement entre les parties. Mais lorsqu'on est au stade de communication des pièces, on ne va pas communiquer les originaux parce que justement, on a besoin pour les fournir au juge. Mais effectivement, il est toujours préférable de permettre l'accès aux originaux, surtout lorsqu'on parle de pièces qui ne sont pas papier. Là. Quand on parle, par exemple, des éléments de preuve matériels, ce qui est un peu plus rare en droit civil qu'en droit criminel, mais quand même. Puis, encore une fois, comme je vous dis, dans la décision, c'était prévu. La Ville de Montréal a dit, écoutez, on a tous les documents à nos bureaux, ils peuvent venir les consulter, mais on parle d'une, je pense, c'était une cinquantaine de boîtes là, de documents qui étaient en preuve. Ce qui rentrait sur deux CD. Donc, on voit ici là, que c'était beaucoup plus pratique. Il y a quelqu'un en arrière, monsieur?
Je voudrais savoir si vous avez des nouvelles de Star Wars Kid. Que s'est-il passé dans sa cause?
J'en ai aucune idée, en toute honnêteté. À ma connaissance, Star Wars Kid, pour ceux et celles qui ne le savent pas, c'est un jeune qui déjà n'avait pas la vie facile, qui était un peu mis à l'étroit, à l'écart à l'école, n'avait pas beaucoup d'amis. Puis à un moment donné, il était dans son école secondaire, il avait un studio d'enregistrement. Puis a commencé à jouer avec un manche à balai et reproduire les scènes de combat dans le premier épisode de Star Wars, qui, dans le fond, est le quatrième à être sorti. Bref, celui qui est sorti il y a 4 ans à peu près. Là. Puis, il y a quelqu'un de malicieux qui est rentré dans la console, qui a pesé sur record. Le lendemain, la vidéo s'est retrouvée sur Internet du pauvre petit garçon qui est en train de se battre avec un manche à balai. Ça a pris des mesures incroyables. Je pense qu'en date... La dernière fois que j'avais vérifié, je pense qu'il y avait 2000 versions du vidéo de Star Wars Kid. Des programmeurs qui ont mis énormément d'efforts à l'habiller, à mettre quelqu'un digitalement dans l'écran contre qui se bat, bien sûr, à allumer, parce que là, il se battait avec un manche à balai, donc le couvrir pour que ça ait l'air d'une épée laser, là, comme dans les films. Donc, Ça a pris une envergure incroyable. Puis l'étudiant en question a poursuivi, en fait, sa famille a poursuivi la famille de ceux et celles qui lui causaient, qui avaient filmé parce que disait ça nous a causé un dommage moral incroyable. Il était dépressif, tenté de se suicider parce que tout le monde savait c'était qui, tout le monde riait de lui, etc. Dernière nouvelle, il avait reçu un iPod. J'ai lu ça dans les journaux électroniques, là, que justement, il y avait des gens qui sympathisaient, puis ils ont amassé des fonds pour lui envoyer un iPod. Mais à ma connaissance, là, il y a rien qui se dessine pour l'instant devant les tribunaux.
Il n'est pas à l'école Louis-Joseph Papineau?
Non.
D'autres commentaires? D'autres questions? Oui. Attendez, on va trouver un micro. On va remettre le...
Merci. Cette fois, par rapport à l'autre décision de commission des lésions professionnelles contre Godbout, on se souvient que lorsque le tribunal a accordé l'injonction, c'était principalement par rapport à l'utilisation graphique du sigle de la commission.
Exactement.
Qu'est-ce qui en serait? Parce qu'on voit souvent ce genre de site de critique, mais adressé non seulement auprès d'organismes publics, beaucoup aussi auprès d'entreprises privées ou d'individus. On voit donc une utilisation des marques de commerce à ce moment-là, des logos. Qu'est-ce qui en est dans ce cas-là? Est-ce qu'il y aurait une possibilité d'empêcher cette utilisation-là?
Oui, nécessairement. Je ne me souviens plus du nom de la décision Michelin, qui est l'arrêt de principe là-dessus, où les employés de Michelin étaient en grève, puis avaient publié un petit document où, sur le dessus, on voyait Bibondum, ou je ne me souviens plus, le bonhomme Michelin, bref, qui est en train d'écraser des employés. Puis la Cour en est venue à la décision que ça portait atteinte à la propriété intellectuelle de Michelin, que les employés n'avaient pas le droit d'utiliser cette marque de commerce-là. Donc, techniquement, oui. Surtout qu'il ne faut pas oublier qu'en droit canadien, contrairement en droit américain, on n'a pas d'exception de parodie officielle qui est vraiment prévue dans la loi. Effectivement, non, on ne peut pas, si on se fie sur Michelin, on ne peut pas utiliser les marques de commerce sans approbation. Vincent?
Je vais aller juste de ma référence, moi aussi. C'est, sur cette question-là, il y a quand même deux décisions. Une en Colombie-Britannique, la Cour d'appel qui a reconnu le droit de... dans une affaire BCA, où on a reconnu en fait, le droit d'avoir un site web qui malmenait l'image de la compagnie. Et il y a eu la même affaire dans deux affaires en France, alors, là encore je vais loin, mais avec le biscuit Danone qui flottait dans une mare de sang, où finalement, en appel, on a considéré qu'il y avait une liberté d'association et le droit pour un syndicat de revendiquer, en fait, qui avait été invoqué contre l'usage. Contre l'usage de la marque de commerce. Donc juste un complément vers l'ouest et un vers l'est.
Puis j'irai au sud où les sites SOCKS, S-U-C-K-S, donc mettre le nom de l'entreprise puis ajouter SOCKS à la fin, ça a été jugé comme étant conforme là, au principe de liberté d'expression dans plusieurs cas, du moins ceux que j'ai lus. Aux États-Unis, il y a une exception prévue dans la loi. Non, au Canada, si on se fie à... je me souviens plus de la... Mais c'est en Colombie-Britannique seulement. Mais ça, c'était une critique, c'était pas une parodie. Il y a quand même une distinction à faire. Parodie, l'arrêt de principe encore là, c'est la décision de la petite vie, je me souviens plus de la compagnie, mais bref, c'est Avanti, c'est ça. Où tu avais la compagnie qui faisait des films pornographiques, qui a fait un film qui s'appelait La petite vite, qui était dans le fond... une reprise de la petite vie. Puis là, la Cour avait dit que l'exception de parodie n'existe pas en droit canadien en grande ligne.
Les points SOCKS aux États-Unis, Microsoft, oui. SOCKS et tout ça, c'est pas des sites de parodie en général, c'est des sites
non,
de
c'est ça, c'est des critiques, voilà. Effectivement, oui.
Oui, Vincent?
Je crois que l'une différence, c'est qu'il... C'est pas en fait sur la parodie que l'exception au droit d'auteur, c'est sur la liberté d'expression qui est reconnue à des syndiqués notamment. Donc pour les SOCKS, c'est parfois différent. En tout cas, c'est un autre véhicule, c'est un autre outil qui est utilisé, me semble-t-il.
On pourrait ajouter aussi que dans certains cas, c'est qu'on a soutenu qu'on n'avait pas une utilisation. S'agissant, par exemple, de la violation alléguée du droit d'auteur, il n'y a pas une utilisation suffisante de l'objet supposément copié pour dire que c'est une violation du droit d'auteur. Dans le cas de la petite vite, on pouvait aussi se demander si c'était une parodie, parce qu'en fait, c'était plutôt
C'était une copie, mais avec un scénario inspiré de la petite vie, mais pour faire un truc pornographique. Je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas s'il était vertical ou horizontal. D'autres commentaires aussi? D'autres questions?
Ma soirée est libre, moi. C'est...
Écoutez, ce silence me laisse indiquer que cela mettrait, compléterait la partie publique de notre rencontre. Il me reste, bien sûr, à remercier notre conférencier d'aujourd'hui pour cet exposé tout à fait stimulant. À vous remercier également pour avoir bien voulu venir avec nous, participer là, à cet exercice, à cet échange. Vous, évidemment, vous êtes toujours bienvenus aux activités de la chaire. Dans le site de la chaire, on annonce à l'avance la tenue de ces activités qui sont en général publiques et auxquelles vous êtes toujours cordialement invités. Alors, merci à tout le monde et je vous souhaite une excellente soirée.